Il est 7h01 et à 7h-ci, à tous les jours durant l'été, vous allez avoir un rendez-vous, n'est-ce pas, avec Bernard Sévigny qui va être notre commentateur de l'actualité politique et l'actualité en général. Bonjour Bernard.
Bonjour Louis.
Comment vas-tu?
Très bien, très
alors,
bien.
On va te présenter, les gens te connaissent, parce que tu es dans l'actualité politique depuis nombre d'années quand même. Tu as été maire de Sherbrooke pendant quoi? Je dirais pas loin d'une dizaine d'années?
Huit ans. J'ai fait deux mandats, ouais. Mais au préalable, j'avais fait deux mandats comme conseiller municipal, donc 16 ans de politique municipale dans le corps.
Oui. Puis comment on s'en sort? Comment on survit à la politique municipale?
Tu sais, Louis, c'est comme le journalisme. Hein? Ça mène partout en autant qu'on en sort.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Éventuellement.
Ça donne une perspective. Et je pense que c'est le genre de contribution que je peux faire dans le cadre de l'émission, c'est-à-dire donner un éclairage, une perspective à l'actualité en m'appuyant sur cette expérience-là. Évidemment que c'est déroulé à Sherbrooke dans le cadre de mes fonctions, mais
ouais, mais t'as été à l'UMQ aussi, donc l'UMQ c'est beaucoup un organisme, j'allais dire de pression jusqu'à un certain point sur pour aller chercher des intérêts pour les membres, les municipalités auprès du gouvernement quelque part.
Qu'on aime bien dire partenaire du gouvernement du Québec, mais effectivement une organisation qui représente 350 municipalités MRC, donc les plus grandes municipalités du Québec, et évidemment c'est un rôle où on négocie parce que vous savez il y a une trentaine de cadres légaux qui touchent les municipalités, que ce soit en matière de transport, de sécurité publique, d'affaires municipales. On est toujours en train de discuter avec le gouvernement du Québec, de participer à des commissions parlementaires. Donc, c'est un terrain provincial qui est extrêmement intéressant sur le plan municipal.
Oui, puis il y a des élections municipales qui s'en viennent cet automne à grands pas, dont à Montréal, à Québec, des villes importantes là, qui vont se retrouver en élection, bien sûr. Alors ça aussi, ton regard... comment dire, aiguisé, n'est-ce pas, de la chose municipale, va être très apprécié, bien sûr.
Et d'autant plus, Louis, que des maires, des mairesses qui quittent la vie politique et quand on parle à Gatineau, par exemple, à Longueuil, à Québec, donc il va se passer quelque chose cet automne, et en guise de préparation, puis là, on le sent, là, on fourmille les armes, on s'organise et c'est de bonne guerre, et je pense que la préparation et la campagne électorale, parce que comme c'est à date fixe, les élections municipales, les campagnes commencent pas mal plus tôt que septembre. Donc, pendant l'été, on va avoir de quoi à se mettre sous la dent, j'ai l'impression, en matière électorale sur le plan municipal.
Bon, comment on survit à la politique municipale quand on quitte, par exemple, comme toi, tu as quitté en 2017? Est-ce que c'est, j'allais dire, difficile quand on a vécu pendant 8 ans comme dirigeant d'une ville importante, là, Sherbrooke, c'est une grande ville, là. Est-ce qu'il y a une période de réadaptation, j'allais dire, quand on sort de la politique comme ça?
Et ça dépend de la façon dont on sort, Louis. On peut faire le choix de ne pas se représenter ou on peut se faire sortir, si tu me prêtes l'expression, sur la tête. Ben évidemment, il y a toujours une période d'adaptation et c'est la raison pour laquelle, vous savez, on critique toujours les allocations de transition, les élus partent avec de l'argent, mais en fait, c'est pour permettre aux élus de se mettre à jour et de pouvoir entreprendre un autre type de carrière ou reprendre la carrière qu'on avait laissée avant de s'engager en politique. Mais parfois, c'est douloureux, parfois, c'est long, mais il y a toujours de la vie après la politique. Et ça, il faut retenir ça, peu importe la façon dont on sort de la politique. Heureusement.
Oui, mais on dit que c'est difficile pour la famille, bien souvent, la politique aussi.
Oui. L'abnégation, vous savez, les sacrifices, non seulement qu'on s'impose, mais qu'on impose à nos conjoints, conjointes, nos enfants et à la famille, c'est pas évident de loin. On en parle, il y a plusieurs élus qui en parlent, qui abordent ce sujet-là, mais ça fait partie des conditions, je dirais, difficiles de l'exercice d'une tâche comme celle-là, d'élu municipal ou de député.
Bon, ben sautons à pieds joints, n'est-ce pas, dans l'actualité, parce que évidemment il y avait un conflit important chez Exceldor, et là, ben il semble, en tout cas, qu'on soit en fin de ou en sortie de ce conflit là, si bien sûr l'offre est acceptée.
Et c'est une bonne nouvelle. D'abord, ça a été accepté hier matin par la coopérative Exceldor. Ça va être soumis aux employés en fin de semaine. Et ça soulève toutes sortes de difficultés lorsqu'on est dans une chaîne d'approvisionnement alimentaire. Vous savez, on travaille avec du vivant. Et pendant le conflit, on a parlé, puis évidemment, un conflit qui a indigné la classe politique, la population. Il y a plus d'un million de poulets qui ont été euthanasiés. Et ça a marqué, je pense, les esprits. Et avec raison. Et on a regardé au cours du conflit, bon, il y a une situation d'oligopole. Il y a deux entreprises, Olimel et Exceldo, qui se partagent le marché de l'abattage au Québec. On a parlé, est-ce qu'on peut avoir recours à une loi spéciale, par exemple? Les services essentiels. Donc, non, parce que il n'y a pas d'enjeu pour la santé publique, il n'y a pas d'enjeu non plus pour la sécurité publique. Il y avait un certain nombre de limites à ne pas franchir, mais ça s'est déjà vu. Vous savez, des conflits de travail qui touche l'activité économique, on l'a vu dans l'industrie de la construction, on l'a vu plus récemment le port de Montréal. Donc, lorsqu'il y a des enjeux de cette nature-là, le gouvernement peut intervenir. Dans ce cas-ci, il y avait pas ces éléments-là. C'est un conflit privé. Le plus loin que pouvait aller le ministre, c'était de nommer une conciliatrice qui a été acceptée par les deux
parties. Et ça a fonctionné d'ailleurs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Là.
Oui, ça a fonctionné. Et puis effectivement, et même le ministre sera rencontré mercredi matin, chacune des parties de façon individuelle, c'est plus loin où ils pouvaient aller, et ça a fonctionné. Maintenant, Louis, ça soulève une question qui est un peu plus large, et on en a eu une malheureuse démonstration. Comment on peut faire pour éviter des gaspillages de cette nature-là? On l'a vu là, mais on a déjà vu ça pour le lait, pour des œufs, des porcelets. Donc, lorsqu'il y a un conflit de cette nature-là, on a parlé beaucoup d'acceptabilité sociale, le premier ministre l'a évoqué. Il y a une sensibilité émergente aussi pour les enjeux comme le bien-être animal. Moi, je pense qu'on est mûr. On est mûr là pour se donner un cadre de réflexion. La poussière va retomber. Et on fait pas ça dans le milieu d'un conflit. Je pense qu'il faut le faire à tête reposée et d'aborder cette question-là avec en venir à une interdiction de poser des gestes comme ceux-là, donner des mécanismes pour empêcher le gaspillage. J'ai pas la solution, Louis, ce matin, mais je pense qu'on est mûr pour une véritable réflexion sur cette question-là.
Bon, et là, on va parler de la mairesse Valérie Plante qui a maintenant une nouvelle adresse là où on peut la texter en fait pour lui soumettre des idées pour la prochaine campagne électorale.
Par texto, tu sais, c'est un canal de communication qui est très...
On peut donner le numéro de téléphone d'ailleurs.
Ben oui, écoutez, ça dit, vous pouvez maintenant me rejoindre par texto, envoyez-moi un message, Valérie, 514-700-7337. Donc, c'est très personnalisé. On parle à Valérie. Oui, c'est pour recevoir des propositions, et on fait ça à 2 mois de la campagne électorale. Mais ça soulève un certain nombre de dimensions, je dirais pas, et de questionnements. Bon, on dit que c'est le cabinet qui va charger de répondre aux gens. On dit qu'on n'acceptera pas des appels sur les services municipaux parce qu'une ligne qui existe déjà, Montréal 311, et que on dit c'est un peu comme des pétitions, c'est les prétentions du cabinet. Bon, c'est une bonne stratégie, je pense, d'obtenir des numéros, de recevoir des propositions. Vous savez, dans des campagnes électorales, on fait déjà des envois de textos de masse, là, et ça se fait déjà. Mais il y a des enjeux de transparence. C'est là-dessus que je voulais t'emmener, parce que on peut pas simplement générer l'impression d'écrire à la mairesse chez le citoyen, surtout quand c'est pas elle qui répond personnellement. Et je vous dirais, si elle se met à répondre à tous les courriels, je pense qu'elle ferait pas sa job de mairesse. Il faut être clair là-dessus. Je pense que normalement, c'est le personnel qui va répondre. Mais on peut pas laisser croire aux citoyens, parce que je l'ai vécu. Il y a des gens qui m'écrivaient des textos, des courriels, et quand c'était l'équipe du cabinet, moi, je tenais à ce qu'on dise au nom du maire, c'est pour le maire, l'équipe du maire. Donc,
pas laisser penser, en fait, que Valérie Plante vous aime tellement qu'elle a votre numéro dans son téléphone, puis elle va vous texter une fois de temps en temps. Là.
Exact. C'est une question d'éthique. Hein? C'est une question de laisser croire. Et Et je dis pas que c'est la pratique qui va se développer dans ce cas-ci, mais il faut faire attention à ça. Le deuxième élément, à qui on écrit? Qui est Valérie? Est-ce que c'est la mairesse ou la candidate à la mairie? Mm-hmm. Et là aussi, ça, bon, écoutez, quand on a un statut déjà de maire, de mairesse, on s'engage en campagne électorale. Ouais. On est connu sous cette étiquette-là. Mais là aussi, est-ce que, évidemment, à 2 mois du déclenchement officiel d'une campagne électorale, c'est pas neutre, là. Ça fait partie de l'arsenal d'outils qu'on déploie dans le cadre d'une campagne électorale.
Tous les politiciens qui s'engagent dans une campagne électorale, quand ils sont au pouvoir, c'est la même chose au provincial, au fédéral ou quoi que ce soit. Les annonces que tu fais dans le mois ou les 2 mois avant le déclenchement officiel de la campagne électorale, est-ce que ce sont vraiment des annonces de gouvernement ou des annonces qui ont une couleur politique, tu sais?
Et la question est
la ligne est souvent très mince.
Exact. Puis un dernier élément, Louis.
Rapidement.
L'arrière-boutique, on l'appelle le back-office. Là. Ouais. Quand on a un service, surtout de courriel, une lettre à la poste, on peut s'attendre à une réponse en 2-3 semaines. Un courriel, quelques heures, à la limite une journée. Mais le texto, là, c'est de la communication instantanée. Et si les textos entrent à la pelletée à la mairie de Montréal, je pense que l'équipe va devoir gérer ça et donner des réponses très rapides. Ouais. Les gens s'attendent à des réponses rapides.
Mais l'avantage du texto, Bernard, c'est que tu fais une banque de numéros de téléphone pour faire sortir le vote, ça va bien après, parce que tu sais s'ils sont favorables ou non. Là. La personne qui prend la peine de te texter, soit pour t'envoyer des bêtises ou pour te faire des suggestions puis te dire à quel point tu es extraordinaire, bien, ça te donne une idée, ça te donne des numéros de téléphone pour faire sortir le vote.
Mais en même temps, c'est pas un péché. C'est-à-dire, ça fait partie des stratégies électorales, mais effectivement, on peut s'en servir parce que c'est volontaire. Il faut le dire, Louis, les gens écrivent d'eux-mêmes, donc il y a un geste opposé. C'est comme si on acceptait d'emblée de se faire interpeller par la suite.
À demain, mon cher Bernard.
À demain.
Salut.
Au revoir.
À lundi. J'ai dit demain,
oui,
mais
oui.
Non, demain, je vais dormir à cette heure-là, ça, c'est sûr.
À lundi, Louis.
Salut, à lundi.